Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
J'espère que vous allez bien. Mieux pour certains avec cet allègement des mesures de confinement qui a commencé ce week-end, même si je sais bien sûr à quel point ça reste difficile pour beaucoup d'entre nous. Le premier confinement nous avait rassemblés dans l'espoir d'en sortir. Le deuxième nous divise dans nos doutes, nos impatiences, nos limites. Il va pourtant falloir apprendre à vivre avec, pendant et surtout après, avec cette incertitude en toile de fond. Et arriver à être heureux, quoi qu'il arrive. Parce que finalement, le bonheur ne se construit pas en essayant d'échapper au malheur, non. Il se construit en intégrant ces malheurs dans nos vies et en les adoucissant du mieux que nous pouvons. Adoucir vos malheurs, c'est aussi ce que nous tentons de faire chaque soir sur cette libre antenne, en vous invitant à mettre des mots dessus, à nous raconter ce qui vous arrive, à partager ce qui vous fait du mal, ce qui vous est difficile à supporter. Pour prendre la parole, c'est facile, vous composez le 3921 et vous vous laissez guider pour me retrouver à l'autre bout du fil. Comme chaque soir aussi, vous pouvez participer à cette libre antenne par SMS si vous avez envie de réagir, de donner votre point de vue, d'apporter du soutien ou une idée. Vous êtes les bienvenus, vous tapez le 739-21, suivi du mot nuit et de votre message. Je vous rappelle également notre adresse mail libreantenne en un seul mot, @europe1.fr. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait, personne ne le sait. Mais ce qui est certain, c'est que c'est ce que nous faisons aujourd'hui qui va créer ce qui se passera demain. Et quelquefois, un simple coup de fil, une conversation peuvent déjà changer bien des choses. Toute l'équipe est là pour vous ce soir encore, Fabrice Fougerouze à la réalisation, Estelle et Maxime au standard, et maintenant, il ne manque plus que vous.
23h, 1h, la libre antenne d'Europe 1, Sabine Marin.
Et ma question pour mieux vous connaître ce soir est la suivante, avec cet allègement justement du confinement, où êtes-vous allé ce week-end? Qu'est-ce que vous avez fait que vous n'aviez plus fait depuis longtemps? Répondez-moi.
Vous aussi, venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 3921. 50 centimes la minute.
Et je démarre cette émission avec l'appel de Marie. Bonsoir Marie.
Bonsoir.
Maxime me dit que vous êtes un peu stressée à l'idée de me parler.
Oui, oui, beaucoup, oui.
Ça va bien se passer Marie. Imaginez vraiment que je vous invite dans l'intimité de ce studio, qu'on est toutes les deux.
Oui.
Et que parler, ça forcément positif, ça va forcément vous faire du bien.
Oui, j'ai besoin de parler.
Hein, je suis là pour ça, ça va vraiment bien se passer.
Mais je vais peut-être vous faire un récit un peu haché, parce que j'ai beaucoup de mal à m'exprimer. Donc voilà, j'ai commencé à être vraiment confrontée à la dépression en 2010.
Oui.
J'ai demandé à mon médecin que je n'en pouvais plus de m'hospitaliser. Et à partir de là, a commencé la descente aux enfers.
Est-ce que pour bien vous comprendre, déjà Marie, quel âge avez-vous?
J'ai 55 ans.
Donc vous en aviez 45 quand ça a commencé?
Oui. Mais c'était bien avant, c'était latent.
Mais oui,
c'était depuis mon enfance.
C'est ce que je voulais savoir. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Quelles ont été toutes les pressions pour que vous en arriviez à cette dépression?
Mon enfance a été très difficile.
C'était comment?
Je me suis retrouvée sans mes parents.
Qu'est-ce qui leur est arrivé?
Parce que ma mère est partie pour nous sortir de la misère.
Mmh.
Et elle est venue en France, donc nous a laissés. Et donc on s'est retrouvés avec un père alcoolique qui venait, partait. Donc voilà quoi.
Il n'y avait que lui pour vous...
Je n'aime pas trop aller sur ce terrain parce que c'est très douloureux encore.
Je comprends, c'est juste pour que je comprenne moi comment vous êtes construite et où sont les faiblesses et les douleurs, vous savez.
Le problème, c'est que j'ai pas eu ma mère de l'âge de 10 ans à 15 ans. Je l'ai retrouvée à 15 ans.
Mmh.
Alors que quand je l'ai laissée, j'étais une enfant. Donc, je savais pas comment agir avec elle et elle non plus.
Mais bien sûr.
Donc, j'étais mal dans ma peau. Tout le monde disait que je faisais la tête tout le temps. Mais bon, c'était pas ça. C'était que j'étais vraiment pas bien. Je savais pas pourquoi. Mais je l'ai su un jour, à l'âge de 17 ans. Des flashs me sont revenus de mon enfance. Et c'est là que j'ai compris.
Mmh.
Donc, c'est une chose que je ne tiens pas trop à en parler.
D'accord.
Parce que j'en ai parlé à cette époque-là, alors ça m'est arrivé à l'âge de 10-11 ans. Donc, je me suis mariée très, très jeune. J'ai eu ma fille très jeune. À l'âge de 20 ans, j'ai fait le mariage, les 20 ans et la naissance de ma fille.
Le mariage, est-ce que c'était un mariage d'amour?
Ben, on s'aimait. On voulait avoir un enfant tout de suite quand on s'est rencontrés. Donc, on l'a fait, cet enfant-là, on l'a fait. Et tout de suite après, il m'a demandé en mariage. Donc, on s'est mariés, on a eu cet enfant. Mais le problème, c'est que je n'étais pas heureuse dans mon couple. Parce que mon époux, il buvait beaucoup.
Oui.
Et il ne faisait pas très attention à moi, il me délaissait. Et bien, j'ai continué à rester. J'ai voulu un deuxième enfant. 7 ans plus tard, j'ai mis au monde une petite fille.
Mmh.
Et quand elle a eu 15 ans, elle m'a dit qu'elle ne voulait plus rester avec son père, que si je ne partais pas avec elle, elle se suiciderait ou elle ferait des fugues.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passait avec son père ?
Ben, elle n'appréciait pas son père parce qu'il était assez rigide avec ses filles.
Mmh.
Et jamais de câlins, de tendresse, de tout ça, quoi. Tout c'était maman.
Est-ce qu'il y avait une maltraitance ?
Il n'y avait pas vraiment de maltraitance, mais il y avait, comment dire, comment je pourrais dire ça? Il n'y avait pas de...
Pas de communication, pas d'amour?
Pas vraiment de communication, voilà.
Mmh.
Et c'était tout, maman. Maman, moi je travaillais, mais c'était tout pour maman. Les sorties, les fêtes d'anniversaire, tout c'était maman. Et on partait jamais en vacances parce que mon ex-mari n'aimait pas ça. Bouger. Donc, je faisais tout avec mes filles pour qu'elles passent des bons moments. Et puis, quand je suis partie avec elle, elle avait 15 ans, et donc c'était en 2007, et elle s'est retournée contre moi parce que j'étais tellement mal que, par ma faute, ma fille est arrivée à devenir violente avec moi.
Pourquoi vous dites par votre faute ?
Parce que j'étais pas la maman forte, la maman courageuse qu'il fallait à cette époque-là qu'elle avait besoin.
Ah oui, mais j'imagine
qu'elle avait 15 ans.
Mais vous étiez vous-même dans le fond du trou.
Complètement, oui.
Ah oui.
Donc j'ai assumé. Financièrement, ça a été très dur. Mais je faisais tout ce que je pouvais. Son papa aussi, de toute façon, continuait à s'occuper d'elle financièrement et tout ce qui s'ensuit. Et en 2017, donc 2007, c'était 2007. Et en 2010, j'ai été voir le médecin parce que... Elle avait eu une accès de violence envers moi. C'était trop.
Mmh.
Et j'ai dit au médecin de m'hospitaliser. Et là, ça a commencé à aller mal pour moi. De plus en plus.
Où est-ce qu'elle est allée, votre fille, quand vous étiez hospitalisée?
Elle est allée chez son père.
Ah oui. Et quand vous étiez à l'hôpital, déjà, ça a duré combien de temps, cette première hospitalisation?
Ça a duré 3 semaines, je crois. Je ne sais plus. 3 semaines, un mois.
Et vous avez été suivie, j'imagine, par un spécialiste, par un psy?
Oui, j'avais le psychiatre, mmh. J'avais la psychologue, j'avais tout ça, mais j'arrivais pas à parler de tout ça. Et tout le monde me disait qu'il fallait que je fasse intervenir que je porte plainte sur ma fille. Chose que j'ai jamais acceptée.
C'est difficile, ça, pour une maman.
Jamais j'aurais accepté de faire une chose pareille.
Mmh.
Surtout que tout c'était de ma faute. Donc, et là, j'ai rencontré un autre homme, un pervers narcissique, qui a fait le vide autour de moi, ma famille, mes enfants, mon bailleur, mon banquier, mon employeur. Je me suis retrouvée... complètement à sa merci.
Comment,
il me faisait peur en même temps.
Comment il a fait ça?
Je ne sais pas comment il est arrivé. Je prenais tellement un gros traitement à cette époque-là. J'étais à sa merci. J'étais une chose. Et il me flattait, bien sûr, au début. Et puis, après, c'était par la peur. J'ai une arme. Je suis ceci, je suis cela. S'il se passe quoi que ce soit... j'ai une arme à feu, je peux te tuer comme ça.
Mm.
Après, c'était la peur. Et lui aussi, il était alcoolique. Donc ça, ma vie, ça a été jalonné de ça, de rencontres avec des alcooliques depuis mon père. Et donc, après, bon, tant bien que mal, je suis restée 3 ans, j'ai subi le divorce de mon mari, avec mon mari. Il m'a fait quitter mon travail. Je me suis retrouvée au chômage et donc je continue avec lui.
Quand on dit votre mari, c'est le deuxième?
Non, je n'étais pas remariée, non.
Ah, donc c'était...
Je suis divorcée par rapport à mon ex-mari, donc on a entamé la procédure de divorce, il a demandé le divorce, il a rencontré quelqu'un. Donc il a entamé la procédure de divorce, on a divorcé, et là ma vie a été cauchemardesque. Et le jour où j'ai pu me débarrasser de ce monsieur, c'est qu'il a eu un traumatisme crânien. Sinon, j'y serais toujours avec sous sa coupe.
Et alors, comment ça s'est passé à ce moment-là?
Ben, à ce moment-là, ben, je suis rentrée chez moi, dans une maison remplie de vêtements, de livres, de tout ce que vous voyez, tout ce que vous pouvez penser, dans un fouillis pas possible. Et j'ai continué à... J'ai trouvé un petit travail, j'ai travaillé... Et après, j'ai essayé de mettre fin à mes jours. J'ai avalé des cachets, j'ai essayé de mettre fin à mes jours. Et puis depuis, régulièrement, une à deux fois par an, je fais des TS.
Mais est-ce que vous êtes suivie par un professionnel?
Je suis suivie au CMP de ma ville où avant où j'étais, parce que j'étais en région parisienne. Et là, je suis suivie à nouveau par le CMP d'où je suis. Et... je dois dire que j'ai rencontré des gens formidables, parce que à ma dernière hospitalisation, j'étais à 107 kilos, alors que je suis passée de 70 kilos à 107 kilos, et il y a une dame, une infirmière qui est passée devant moi, qui m'a dit « Madame, il faut faire quelque chose, il faut vous mettre à la diète pour perdre ces kilos ». Et elle m'a laissé ça, là, comme ça, avec ces mots-là. C'est là que je me suis détestée encore plus. Et c'était j'étais avec un autre homme à cette époque-là que j'ai suivi parce que j'avais dû prendre mon appartement parce que je ne pouvais plus payer. Et cet homme-là que j'avais connu en maison de repos, encore une fois, m'a proposé de venir habiter chez lui dans la Nièvre.
Oui.
Donc je l'ai suivi comme un peu comme un robot. Et le problème, c'est qu'il était alcoolique aussi, mais d'une gentillesse extrême. D'une douceur, d'une gentillesse, et son seul souci, c'est ça. Son seul problème, c'est qu'il était alcoolique, mais chronique.
Et est-ce que ça, son comportement changeait ou pas?
Non, il avait du mal. Avec moi, au début, on essayait de limiter les dégâts. Je pensais pouvoir l'aider, mais bon, c'était l'échec total. Et je me suis mise à faire comme lui jusqu'à ce que je pèse 107 kilos et que je tombe et qu'on est obligé d'appeler les pompiers pour m'emmener à l'hôpital. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à entrevoir une lumière, une lueur d'espoir. Il y a une infirmière qui est venue me voir en médecine qui m'a dit qu'elle va me suivre, elle m'a parlé. Et je ne sais pas pourquoi, mais cette personne-là m'a tout de suite entrouvert une porte.
Oui.
On m'a dit en médecine, vous allez être hospitalisée en psychiatrie. J'ai dit non, je ne veux surtout pas. Et là, ils m'ont dit non, ce serait l'affaire d'une semaine pour réajuster votre traitement, etc. Vous ne faites pas de soucis. Donc j'ai dit, si c'est pour une semaine, je veux bien. Et bien, j'y suis restée trois mois et demi.
Mais est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Est-ce que ça vous a apaisé?
Oui, ça m'a apaisé, oui. Oui, ça m'a apaisée parce que j'ai rencontré des gens formidables,
ouais.
Des soignants formidables.
Ah, ça fait du bien d'entendre ça.
Oh oui, des soignants, mais vraiment dévoués, hein, sous leur masque toute la journée. C'était, mais vraiment, non, j'ai rien à redire. J'avais une référente, mais charmante, gentille comme tout.
Mmh.
Et comment elle s'appelle? La psychologue, ben, je la voyais de temps en temps au coin de l'œil. Elle me faisait un peu de venir vers elle, mais j'y allais pas. Et puis un jour, j'ai frappé à sa porte et j'y suis restée une heure. Et elle m'a écoutée, elle était là. Elle a été formidable aussi.
Ça, c'est bien.
Et là, le problème que j'ai, c'est que je vis dans la peur tout le temps. Et cette peur, je l'ai depuis mon enfance. Mmh. Peur de sortir, d'aller faire les courses, peur de... Je ne sais pas. Toujours cette peur en moi et je ne sais pas comment m'en débarrasser. Et ça, ça remonte à très loin.
Ben, j'ai bien compris que vous ne souhaitez pas en parler, donc c'est un petit peu difficile pour moi d'aborder des sujets que vous ne voulez pas aborder, mais il est clair que vous avez grandi avec cette peur qu'on vous a mis dans la peau, j'allais dire, pratiquement.
Oui, mais cette peur-là, ça vient d'avant, de vraiment toute petite enfance, oui. Cette peur. Peur de ne pas revoir ma mère.
Il y a une peur de l'abandon chez vous.
Hein. Oui, complètement, oui.
Il y a une peur de l'abandon et probablement une peur de l'humiliation aussi. On vous a beaucoup humilié, maltraité.
Oui.
Est-ce que vous avez abordé cette peur avec cette psychologue-là qui vous a ouvert sa porte?
Non.
Pourquoi?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais là, j'avais plus de maison. J'avais plus d'appartement. J'habitais chez cet homme. J'étais hébergée chez lui. Donc, ils ont tout fait pour me trouver un petit appartement dont je suis maintenant. Mmh. Et par la suite, avoir une demande de logement. Et là, je suis logée par la mairie.
Mmh, d'accord.
Et je suis suivie par la SAMSA aussi. Un homme formidable qui s'occupe de moi, de mes papiers, et psychologiquement aussi, il est là. Mmh. Et il vient me voir une fois par semaine. J'ai des activités au CMP.
Donc ça, c'est très bien.
J'ai l'infirmière aussi que je revois, que j'avais connue à l'hôpital et qui me suit une fois par semaine aussi. Mmh. Mais c'est cette peur-là qui me ronge.
Oui, je comprends.
Peur de tout.
Mais ce que j'entends déjà, ce qui est positif, c'est que vous êtes... D'abord, vous avez un toit sur la tête. Vous êtes en sécurité. Oui. Vous êtes entouré. Donc ça, c'est vraiment bien. Maintenant, il va vraiment falloir accepter de parler de cette peur avec un thérapeute.
Oui.
Et de remonter le fil, de dérouler la pelote de laine jusqu'au début de cette peur qui s'est installée. Pour réinstaurer en vous de la confiance et revoir votre histoire de vie et comprendre que, quel que soit ce qui a pu vous terroriser, vous traumatiser, aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, vous êtes une adulte.
Oui.
Vous avez réussi à surmonter tout ça. Vous y avez puisé probablement une force énorme.
C'est la seule chose qui me tient debout maintenant, c'est pas de refaire ma vie. La seule chose qui me tient debout, c'est de me revoir mes enfants et d'être devant eux
solide.
Bien.
Ouais, c'est ça.
Solide, bien et physiquement bien et psychologiquement bien dans ma tête.
Où vous en êtes avec vos deux filles en ce moment? Vous en êtes où?
J'en ai une qui m'a tourné le dos parce que le monsieur en question l'a appelé, je ne sais pas ce qu'il lui a dit. Donc, elle a un dégoût de moi. Elle m'a rejetée complètement. Elle a 3 enfants que je ne connais pratiquement pas. Mmh. Et elle n'est jamais revenue vers moi. Par contre, la plus jeune, si. J'ai des petits messages, des SMS. Je sais qu'elle fait un métier formidable maintenant. Elle qui était, elle était carriériste, elle voulait faire ci, elle voulait faire ça. Et maintenant, elle fait un métier complètement à l'opposé de ce qu'elle était, ce qu'elle voulait. Et j'en suis très fière.
Est-ce qu'elle est heureuse avec ce métier-là?
Apparemment, elle me dit qu'elle est très fière.
Bon.
Elle est très contente parce qu'elle s'occupe des personnes en deuil.
Mmh.
Donc voilà, elle a changé plusieurs fois de travail pour avoir un poste plus élevé, plus intéressant. Et là, elle se retrouve dans un poste comme ça, parce qu'elle travaille dans les ressources humaines.
D'accord.
Oui, et j'en suis très fière.
J'imagine, oui. Elle doit se sentir en plus très utile, hein, c'est valorisant ça.
Oui, c'est ça, elle me dit, elle se sent très utile et elle est bien, elle fait de la relaxation, elle fait plein de choses à côté et... Elle est très prise, 6 jours sur 7. C'est pas la jeune fille que j'ai connue, quoi.
En tout cas, de ce côté-là, ouais, vous êtes fière d'elle et les relations sont possibles. Il y a une communication qui est là. Donc
c'est positif.
Ça, c'est très, très bien.
Je lui demande de ses nouvelles. Elle me donne de ses nouvelles par des SMS. Et puis, voilà.
Bon, et l'autre, par contre, la communication est rompue pour le moment.
Est rompue depuis 2010.
Oui. Ce qui veut pas dire que c'est définitif, ça veut dire que vous êtes toutes les deux très blessées probablement.
Oui.
Et que ça va être un peu plus difficile, mais peut-être effectivement quand vous serez plus stable, que vous aurez surmonté tout ça, vous arriverez à lui parler différemment et il y a quelque chose qui se reconnectera entre vous.
Ben, j'espère. Parce qu'elle a été ma petite fille pendant... mon unique enfant pendant 6 ans, 6-7 ans. Et on a failli la perdre. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit à mon ex-mari que je voulais un deuxième enfant. Ça a été tellement difficile, ce qu'on a vécu tous les deux, que je lui ai dit que je voulais un deuxième enfant. Mais sauf que ça a mis du temps à venir, mais c'est arrivé. Et j'ai eu le bonheur d'accueillir ma deuxième fille.
Est-ce que concrètement, vous savez ce qu'elle vous reproche? Est-ce qu'elle vous le dit?
Moi, je pense que la plus jeune, ce qu'elle me reproche, c'est d'être faible.
Elle comprend pas que c'est normal avec tout ce que vous avez vécu?
Je sais pas.
Vous n'êtes pas un robot et vous avez subi beaucoup de choses difficiles, lourdes, et que c'est un peu normal aussi de craquer?
Oui.
Il faudrait qu'elle puisse comprendre ça.
C'est pour ça que je veux... Maintenant, je sais qu'elle elle fait du travail sur elle-même. Peut-être que elle arriverait à comprendre ce que je vis et pourquoi j'étais comme j'étais. Et peut-être qu'on aura une relation plus épanouie toutes les deux.
C'est ça, c'est-à-dire que
si... on était très proches.
Si elle fait un chemin, elle, un bout du chemin en faisant un travail déjà sur elle, et si vous faites un bout de chemin en faisant un travail sur cette peur, en allant l'apaiser, cette peur, ça peut vous permettre de vous retrouver au milieu du chemin, justement.
Oui.
L'une et l'autre. Parce que je pense que pour vous, il est vraiment important d'aller travailler sur cette peur. Une fois de plus, de remonter le fil, de comprendre ce qui a pu vous faire tellement peur, et de vous, de vous rassurer en vous disant qu'aujourd'hui, tout ça, ça n'existe plus. Ce ne sont que des émotions et des souvenirs. Et vous pouvez calmer ces émotions et ces souvenirs. Comme les ranger dans un placard du passé et regarder devant maintenant. Parce que quand on a peur, c'est comme si on marchait à reculons dans sa vie, en regardant toujours ce qui s'est passé avant. Et c'est compliqué d'avancer quand on marche à reculons.
Ben là, j'ai du mal, mais je me suis tenue je me tiens à cette idée de me revoir mes enfants, de ne pas être une clocharde devant elles, d'être bien dans ma peau et bien dans ma tête.
C'est très bien parce que
pour être positive avec.
Avoir un objectif, c'est ce qui nous fait tenir debout et surtout c'est ce qui nous fait avancer. Donc c'est un bel objectif.
Ouais.
Et le fait qu'elle travaille sur elle aussi de son côté, ça me paraît très positif tout ça.
Ouais.
C'est une bonne chose.
C'est très dur. C'est très dur d'avoir peur. C'est très dur d'avoir le manque d'elle.
On
était très fusionnels. Et ça me manque énormément.
Mais quelquefois, quand on est très fusionnel avec ses enfants ou avec un de ses enfants, il y a une rupture comme ça, un peu brutale, comme si c'était tellement difficile d'avancer dans la vie que la rupture est forte, ça ne veut pas dire qu'elle est définitive. Elle avait besoin probablement de cet espace, elle, pour prendre son envol.
Oui.
Et faire le point sur plein de choses et probablement revenir à la bonne distance émotionnelle après.
Ah, d'accord.
Quand on est trop attaché, il faut des fois, quelquefois, couper violemment le lien. Pour pouvoir avancer un petit peu de son côté quand on est une jeune fille. Mais si elle commence à comprendre des choses et vous aussi, je suis persuadée que ça va se renouer entre vous.
Oui. Seulement sur la peur, là, je voulais savoir si vous pouvez m'aiguiller sur des lectures, des choses qui pourront m'aider. Parce que moi, j'adore lire. Mais j'ai pas de goût particulier. Je lis un peu ce que je trouve. J'ai commencé à connaître Maupassant à mon adolescence. Et que j'ai adoré, que je relis régulièrement. Et puis après, je me suis mise à lire sur tous les livres de Christian Jacques.
Oui.
Que je trouve passionnant.
Oui.
Et puis, bon, j'ai pas vraiment. J'ai pas vraiment une. Je lis un peu tout et n'importe quoi.
D'accord. Je peux vous conseiller plusieurs livres volontiers. Moi, j'adore ça et je suis persuadée qu'à chaque livre, on grandit, on apprend.
Oui.
Il y en a un qui me vient à l'esprit qui s'appelle Trembler mais oser. Comment surmonter nos peurs, justement. Oui, Trembler mais oser.
D'accord.
qui a été écrit par Suzanne Jeffers, J-E-2-F-E-R-S. Suzanne Jeffers, Tremblay.
J-E-2-F.
J comme Geoffroy, J-E-2-F comme Françoise.
Oui.
E-R-S. Suzanne Jeffers.
E-R-S, Jeffers.
Ouais. Tremblay, mais oser.
D'accord.
Et puis, je vous conseille de découvrir tous les travaux et les livres de Jacques Salomé.
Oui.
Et notamment son livre qui s'appelle Le courage d'être soi. Et plus globalement, tous les contes de Jacques Salomé, vous verrez, il y en a plein. Il y a les contes à grandir, il y a les contes à guérir, tous ces contes-là qui sont merveilleux.
Oui.
Je pense que ça vous plaira beaucoup et ça vous fera avancer sur ce chemin-là.
D'accord, c'est gentil. Là, je dois faire les démarches pour avoir un appartement.
Oui.
J'ai peur. J'ai heureusement le monsieur qui de la SAMSA qui s'occupe de tout ce qui est administratif. Mais moi, de moi-même, j'ai peur. J'ai peur de pas aboutir, de pas trouver un logement. J'ai peur de parce que mon but c'est de retourner dans la région parisienne plus tard, disons d'ici 2 ans. Et on m'a dit que c'était possible de faire m'approcher de ma famille.
Mm-hmm.
Ma mère, notamment, ma mère, ma sœur, mon frère. Mais l'histoire de ma sœur, mon frère et moi, c'est l'histoire digne à raconter dans un livre.
Et pourquoi vous ne le feriez pas, même pour vous, écrire tout ça? C'est une manière d'exorciser aussi ses peurs.
Je ne sais pas, écrire comme un livre, moi, je ne saurais pas.
Même pour vous, on s'en fiche. Juste que ça sorte.
Oui.
Sur un cahier, sur un ordi, sur ce que vous voulez.
Oui.
Mettre des mots sur tout ça.
Oui.
Vous savez, je le dis très souvent, derrière chaque peur, il y a une envie qui se cache. Et
oui.
Il vaut mieux arriver à regarder l'envie que la peur. Parce que quand on regarde le vide, on y va directement.
Oui.
Quand on regarde la peur, on n'avance pas. Quand on regarde l'envie qui est cachée en dessous, on se focalise sur un objectif positif. Et vous avez des objectifs qui sont très positifs. Revenir à Paris, renouer avec votre fille, vous débarrasser de ce sentiment de peur qui vous accompagne comme une toile de fond. Tout ça, ce sont des objectifs positifs. La lecture, je trouve ça très très bien que vous soyez ouverte à ces livres-là, qui sont des livres de développement personnel,
oui.
Qui vont vous faire grandir aussi. Tout ça, c'est pour du bien, du mieux. Entourez-vous uniquement de gens qui vous font du bien. Hein, ça aussi,
ouais,
c'est important.
C'est pas évident parce que je suis toute seule. Je suis toute seule dans mon coin et puis je suis dans une région que je ne connaissais pas avant. J'ai une ou deux amies que j'ai fait la rencontre à l'hôpital. J'ai rencontré des gens formidables.
Mmh.
Et on s'est liés d'amitié et d'une amitié forte.
C'est important, ça, garder ce contact-là avec des gens qui vous comprennent.
Oui.
Lisez des livres qui vous font du bien, regardez des films qui vous font du bien aussi. Tout ça, ça joue sur le moral.
Oui. Oui.
Et restez focalisé sur vos beaux objectifs et sur vos envies, pas sur le reste.
Oui, d'accord.
Mmh.
Oui, c'est gentil.
D'accord, Marie ?
D'accord, merci.
Et si vous avez encore envie de parler, la porte est ouverte, vous revenez quand vous voulez.
D'accord, c'est gentil.
Je me permets de vous embrasser.
Merci de m'avoir écouté.
Au revoir, Marie.
Au revoir, merci.
Laissez votre message à Sabine Marin au 739 21. 75 centimes, plus coût du SMS.